Jésus disait, lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table. Est-ce qu'il ne lui dira pas, plutôt prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir le temps que je mange et boive. Toi, tu mangeras ensuite, tu boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ces ordres-là? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous avait été donné de faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur. Que ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes. Que sa lumière vivifiante revête comme d'un manteau la surface et l'orbe de la terre. Que la rayonne et bénisse toute chasse soit faite de sainteté virginale, pure, éternelle, immaculée. Et qu'ils puissent voir devant leurs yeux s'ouvrir les portes de la Jérusalem d'en haut. Libéré de toute entrave, lavé de toute faute, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi, Alléluia. 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 Louange à toi, Alléluia.
On n'est plus tellement habitué à ça. Peu importe. Souvent dans les maisons, il y avait une bonne. On appelait ça une bonne. Une gouvernante, c'est plus noble, mais. Et puis un homme à tout faire, quoi. Souvent, c'était ça. C'est. Il n'y a pas si longtemps que ça que finalement tout ça a disparu. C'était rare les maisons où il n'y avait pas la bonne. Et si on n'était pas une maison où il y avait la bonne, eh bien on était la bonne de quelqu'un. Ou l'homme à tout faire de quelqu'un, c'était ça. Hein. Donc c'était... Dans les familles, il y avait les parents, les enfants, et puis il y avait la bonne, et puis il y avait l'homme à tout faire, et puis le jardinier. Voilà. Partout c'était comme ça. Mais si c'était pas le cas, si nous nous étions pauvres, et bien du coup ça veut dire que c'était nous, non ? La servante, c'était nous. Et il y avait toujours quelqu'un d'extérieur à la famille, dans la famille. Il y avait quelqu'un qui venait de l'intérieur, de l'extérieur à l'intérieur. Il y a quelque chose. La famille humaine accueille comme ça quelqu'un d'extérieur. Et c'est elle qui fait tout le travail. Et il y avait une vénération, une relation très, très spéciale entre l'esclave et le maître aussi, quelque part. Tu vois, il y a 20 siècles, c'était des esclaves. Mais une relation particulière, quoi. Comme une vénération, et même l'écriture demande quoi aux gens qui étaient chrétiens hein, d'avoir une immense vénération pour leur maître. Presque comme si c'était leur papa, leur père. Quoi. Même plus que ça, parce qu'un père n'exige pas ces choses-là d'un enfant. Aujourd'hui, c'est différent, c'est chacun pour soi, et Dieu pour tous. Cet esprit de service, c'est extraordinaire. Dans les monastères, on a gardé ça, il y a quelque part. Il y a la mère abbesse, pour la prière, etc. Et puis celles qui font le travail. C'est sûr. C'est les chartreux, il y a les pères, et puis... Il y a les données, ce qu'on appelle les données. Mais et ben Jésus là, il se présente un peu comme un esclave. Voilà. Il rentre dans la famille humaine, c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui va labourer les champs, c'est la victime hein, qui creuse le sillon dans la terre, silencieusement, fait tout le travail, apporte la nourriture, apporte le truc. Et aussitôt qu'il rentre à la maison, il faut qu'il prépare le repas. C'est lui qui est en même temps le prêtre, en même temps la victime, ça il fait tout. Il a eu la nourriture, il a tout, quoi. C'est lui qui transforme la pâte humaine. Et face à l'humanité, tout à fait heureux finalement, le Seigneur, d'être celui à qui on dit ben, c'est normal. C'est pas seulement normal. J'espère que tu es heureux d'être chez nous quand même. Tu devrais nous remercier. C'est curieux cette relation. Tu devrais nous remercier. On aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Oui. C'est vrai, il fait tout. Ça. Et on a. La relation qu'on a avec le Seigneur, c'est la relation qu'on a avec quelqu'un, pas qu'on méprise, c'est pas ça, on ne méprise pas, parce qu'il y avait un grand amour, je crois, moi, la famille pour eux, la bonne, pour le... Il y avait de l'amour, oui. Il y avait de l'amour. C'est lui qui faisait tout. C'est vrai, je vais à la messe, je fais oraison, la transformation divine, le repas, Le travail des champs, il écarte les démons, il enlève les ronces, il creuse les sillons, il arrase, il fait tout, mais nous on fait rien. Il rentre à nouveau à la maison et une fois qu'il nous donne, se donne la nourriture, comme consolateur et tout. Et la relation qu'on a avec, si on n'y prend pas garde, hein, on se dit, mais c'est normal. Même presque à la limite. Et il nous est redevable, regarde. Je fais un effort vis-à-vis de toi, regarde. Je vais à la messe. Mais il y en a plein qui n'y vont pas. Je fais raison, je laisse le travail. Ton travail me faire opérer sa transformation en moi. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Et donc tu vois, tu devrais être content, c'est toi qui es en dette vis-à-vis de moi. Tu dis quand même Seigneur, hein. Alors le Seigneur nous dit, oui c'est vrai, je suis un serviteur inutile. Et je le paierai, mon vieux père spiritualisé. Oui, Seigneur, je suis un serviteur inutile et encombrant. Parce que c'est un peu comme si, tant qu'on n'a pas tout donné à Dieu, Jésus, le Seigneur, sa grâce, sa compagnie, quelque part, encombre le vieil homme, tant qu'on a un peu cette volonté de maître. Je maîtrise la situation. Tant qu'on est que dans cette, encore dans cette situation, on n'est pas devenu le serviteur des autres, l'esclave de Dieu. Tant qu'on n'est pas entièrement brûlé par la volonté éternelle d'amour de Dieu, et qu'on n'a pas dit le fiat à être, j'allais dire, crucifié avec Jésus crucifié, eh ben, on a cette tendance, quoi. C'est ça qu'on le voit. C'est moi. Ça suffit ce que j'ai fait quand même dans ma vie, hein. J'ai beaucoup donné dans ma vie, hein. Le je, le moi, je est toujours là. Ma volonté propre, je suis fier. Mais tant qu'on n'est pas rentré complètement dans cet abandon, ce sourire de la petite bonne, l'abnégation. Et cette évidence, quoi, qu'on est un serviteur, qu'on est un serviteur des... Voilà. Oui, inutile, c'est vrai. Instrument et finalement encombrant aussi parce que je suis un serviteur inutile encombrant et Jésus dit voilà il nous dit soyez des serviteurs dites ça mais non je suis un serviteur inutile. Et comme il y a toujours qu'un point d'orgueil qui traîne quelque part, il faut rajouter un serviteur inutile et encombrant. Parce que Dieu aurait pu choisir un serviteur, c'est vrai. Plus humble comme moi. Avec plus d'humilité, plus de disponibilité. Cette disponibilité surnaturelle est très importante dans notre vie. Être dans un état de disponibilité surnaturelle, continuelle, de disponibilité divine et continuelle. Et cette disponibilité à l'extérieur et à l'intérieur, si quelqu'un a besoin de nous, on est là, disponible. Et c'est évident. On n'est jamais assez disponible. Même si on fait tout, quoi. Et qu'eux, ils font rien. On ne le voit pas. Cette disponibilité surnaturelle extraordinaire, c'est la signature de la grâce chrétienne. Disponibilité que Karma appelle, je suis là. Je sais qu'on ne m'appelle pas, mais je l'entends invisiblement. J'y vais. Les enfants avortés ont besoin d'être adoptés. Je suis disponible. Les âmes du purgatoire ont besoin d'un besoin purulent, quoi. Que les portes de la terre s'ouvrent et que la Jérusalem souffrante puisse être ouverte devant moi, désaltérée. Emporté dans la lumière surnaturelle de ma foi, de la foi de la Jérusalem spirituelle accomplie, des temps accomplis qui viennent et rendue parfaite. Une disponibilité surnaturelle. La disponibilité, le père Garrigou Lagrange disait que ça, c'est la signature de la quatrième demeure. Cette disponibilité surnaturelle accomplie, en plénitude reçue, qui fait notre vie intérieure, fait la quiétude de l'âme. Parce qu'il n'y a pas de revendication, quoi. Alors on est en paix, et Jésus est sur la croix, mais. Mais Jésus dans sa vie, Jésus dans le ventre de la mère, Dieu en Jésus est impatient, quoi, quelque part, qu'il ne soit pas arrivé à cet instant où le feu est prêt à embraser toute la terre. Il est disponible. Pour que cet embrasement de ce feu enflamme tout de sa vie. Et qu'il n'a rien qui soit brûlé entièrement en lui, même sa sainteté, même sa perfection, même son union hypostatique, va être déchiré et brûlé. Cette espèce de regard du Verbe de Dieu, de la personne divine, de Dieu vivant, quoi, du Dieu tout-puissant, l'innocence incréée elle-même. Il est tout-puissant d'innocence. C'est une innocence toute-puissante. Une disponibilité d'innocence, dis-moi. Ah oui, j'arrive, je suis épuisé, épuisé, épuisé par le travail. Et puis c'est broyé, quoi. J'ai parcouru toute la terre. J'ai parcouru toute la terre depuis hier. J'ai visité tous les hommes. Je n'ai pas trouvé un qui m'ouvre la porte. Pas un, pas un seul qui m'ouvre la porte, qui était disponible. Est-ce que je puisse venir prendre mon repos à mon tour? Alors, ce feu, quoi, qu'est-ce que... Il me tarde que ce feu puisse être allumé dans toutes les âmes disponibles et que toutes les âmes soient disponibles à l'embrasement du feu. Et quand il rentre à la maison, l'innocence substantielle et éternelle vient pour habiter, rendre service, compléter, supplier, refaire, continuer, faire tout ce qui n'a pas été fait. Et en plus, les personnes auxquelles il se fait esclave, enfin, c'est plus qu'esclave d'ailleurs, dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'aides pas? Il faut en rajouter encore. Eh bien, Jésus, c'est comme un enfant. C'est plus comme un enfant. C'est l'innocence elle-même en l'air disponible. Ça ne l'étonne pas du tout. Qu'on ait vis-à-vis de lui cette exigence inouïe, quoi. Je dis, ah oui, t'as besoin de moi, mais je suis là. C'est tout à fait normal. C'est un peu d'enfant. Il faut que tu me mettes la table maintenant, toi. Ah oui, pardon, oui, bien sûr, évidemment. Oh, pardon. Il demande pardon. On fait le mal et c'est lui qui demande pardon. C'est vraiment extraordinaire. Et nous, la grâce, lorsqu'elle coule à l'intérieur de nous, la grâce sanctifiante, eh bien, elle enlève tout ce qui nous empêche d'être comme ça. Jusqu'à ce que les espaces d'innocence dans l'humanité entière, dans cette disponibilité surnaturelle qui est la nôtre, et qu'on apprend dans l'oraison, parce que dans l'oraison, on laisse l'innocence divine du Christ nous habiter et éprouver ce qu'il en éprouve lui-même, parce qu'il est disponible, toute opération venant de l'acte pur, de la volonté éternelle du Père, et la volonté éternelle du Père, c'est la sagesse de la croix. Chaque moment, dans son humanité et même dans sa divinité, et son union hypostatique, sa volonté éternelle du Père, c'est que cette innocence incréée, substantielle, infinie, dans l'éternité, se réalise dans la chair, en lui, et aussi dans l'union. Les trois. Il travaille épuisé toute la journée, et il donne à manger, et il donne à boire. Les trois. Et même ensuite, il dit, ce serviteur inutile. Et comme il se trouve en encombrant, il se cache dans l'Eucharistie jusqu'à la fin. Il se cache, disponible pour d'autres disponibilités, souverainement sublime. Ça aussi, Saint Joseph était comme ça. Il a pris l'humilité, la disponibilité de Joseph et de Marie. Il n'en faisait jamais assez pour les autres, jamais. Et qui était tout confondu, de ne pas pouvoir faire davantage. Eh bien, cette volonté éternelle de Dieu. Le Père avait sur Jésus, sur une hypostatique, une pression, un poids d'exigence, de croire. Impossible à décrire, quoi. Et même la divinité dans la personne du Verbe éternel de Dieu, la personne, Dieu vivant, Dieu tout. Puissant, créateur de tout ce qui existe. C'est une toute puissance de disponibilité pacifiante. C'est toute puissance de Dieu, quoi. C'est toute puissance de Dieu dans la vie intérieure de Dieu, qui est la deuxième personne de notre sainte. Elle est responsable, elle ne peut que se livrer à la mort. Elle ne peut que livrer à la mort tout ce qu'il fait. Et donc la persécution, la pression, la divinité du Verbe de Dieu à l'intérieur de Jésus a exercé une pression de souffrance, de combat, d'amour, d'anéantissement sur l'humanité de Jésus, mais aussi sur son union hypostatique. Mais aussi, du coup, par... un rebondissement sur sa propre personne divine. prête à vivre la même disponibilité, la même pression et la même croix de la part de la première personne de la très sainte Trinité sur elle. La croix dans Jésus est triple. Il a beaucoup plus souffert de cette espèce de la pression extraordinaire des exigences substantielle de la divinité toute puissante en lui que ce que les hommes lui ont fait subir. Et c'est pour ça qu'il est en gratitude vis-à-vis des hommes. C'est un serviteur inutile, on comprend. Et son Eucharistie où il vient se réfugier finalement est une gratitude. C'est une action de grâce eucharistienne. C'est une gratitude. On ne fait pas assez oraison. Parce que quand dans l'oraison, on s'enfonce dans le cœur de Jésus, c'est ça qu'on voit. C'est quelque chose que... Il n'y a que l'amour, l'amour tout puissant d'innocence, d'humilité, d'effacement, de délicatesse substantielle à l'infini, quoi, qui est capable de vivre une chose aussi sublime. Jésus, il le dit, hein. Aux âmes du purgatoire, sans arrêt. N'ayez pas peur. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi? Souvent, les gens meurent, vont au purgatoire, et ils vont pas, ou même ont peur même d'aller au purgatoire. Donc ils redoutent le jugement particulier. C'est le grâce à laquelle il pourrait rentrer dans cette disponibilité admirable du purgatoire. N'ayez pas peur. Et nous leur disons, n'ayez pas peur, c'est Jésus qui vient à travers nous. Et nous en Jésus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Laissez-vous remplir. Laissez-vous remplir d'une disponibilité que vous n'avez jamais connue. Vous n'avez jamais demandé pardon. Vous n'avez pas pensé qu'il fallait demander pardon pour ça et ça. Vous n'avez pas pensé qu'il fallait demander pardon. Vous n'avez pas pensé qu'il fallait pardonner à ce point. Bon, eh bien, n'ayez pas peur. On va le faire ensemble. N'ayez pas peur de changer de vie. Intérieur. N'ayez pas peur de dire je pensais mourir en étant un grand saint sur la terre et je découvre, n'ayez pas peur de découvrir que non, vous êtes un serviteur pénible, lourd, inutile, encombrant, parce que vous étiez encore un peu rempli de vous-même, vous vous regardiez vous-même. N'ayez pas peur de ne plus vous regarder, de regarder Dieu. C'est Dieu qui compte. Est-ce que j'ai eu 7 enfants, j'ai eu 5 enfants? Finalement, Seigneur, ils sont beaux, mes enfants. Ah, t'es sûr? Et c'est ça qu'il faut dire. N'aie pas peur de dire, attends, ces enfants, si Dieu t'a créé sur la terre, c'est pour que ces enfants deviennent prêtres, deviennent Mère Thérèse, hein, carmélite, pas pour qu'ils soient beaux. Ça n'a pas été ton désir ardent de tous les instants de ta vie que ça devienne la sainte. Le roi. Non, ça ne m'a pas effleuré. Alors écoute, tu viens du travail, alors maintenant tu vas me resservir le repas là. N'ayez pas peur de. On leur dit, n'ayez pas peur. Le travail n'est pas terminé. Il ne sera jamais terminé quelque part. Hein. Et on puise dans l'Eucharistie. Serre-moi à table, donne-moi à boire. J'ai soif que tous, à travers nous, puissent recevoir ces torrents, de vie intérieure, de disponibilité, d'humilité, de service. De venir pénétrer à l'intérieur d'une maison pour y répandre le parfum de la propreté, de la pureté, de l'immaculation, de la Jérusalem terminale de Dieu. Là où les portes s'ouvrent pour entrer dans la substance intérieure essentielle à l'acte pur de Dieu. Le Saint-Esprit, par exemple. Voilà l'immense préoccupation de mon inutilité disponible. Il ne faut pas avoir peur de vivre pour Dieu seul. Nous avons été créés pour Dieu. Pour arriver à cet état extraordinaire de sagesse, de manière à être germe. Dans la maison de David, mon serviteur, j'ai établi un germe. Une source de vie éternelle. Une louange éternelle de Dieu seul. Une glorification éternelle de Dieu seul. Et il a fallu que ce soit ma préoccupation absolue, entière et totale dans ma vie sur la terre par la foi. Si je n'ai pas atteint cet état-là, c'est que ma vie chrétienne n'a pas vraiment commencé. Il va falloir qu'elle commence au purgatoire. C'est-à-dire que le purgatoire est un lieu merveilleux. Un lieu merveilleux. Où il n'y a pas l'ombre, mais pas l'ombre. La disponibilité au mouvement de la grâce venue des fruits de l'Eucharistie de ceux qui ont la foi sur la terre. Une disponibilité immédiate, totale, absolue, universelle, dans une gratitude totale, un lieu merveilleux, une maison parfaite, une porte ouverte sur les. À la proportion de l'intensité des désirs du Christ, de Marie. Vous ne pas avoir peur du purgatoire. Rentrer dans le jugement particulier, pénétrer le purgatoire. Le purgatoire, c'est le ciel déjà. Une âme qui est obligatoire n'est pas rigide. C'est une âme entièrement disponible, élastique, modelable à merci, mais sous la dépendance d'un maître. Et le maître, c'est ceux qui ont la foi, c'est ceux qui, à qui Dieu a donné dispensation de ses biens. Il leur fait confiance. Il a des serviteurs et travaille dans sa maison. Et ce travail, c'est ceux qui disposent de Jésus, qui s'est mis à disposition de, pour que les fruits des sacrements soient communiqués en surabondance, en surabondance, en surabondance, en surabondance, en surabondance, en surabondance. Toutes les messes qui auraient dû être célébrées et qui n'ont pas été célébrées. C'est la préoccupation du serviteur. Ça n'a pas encore été fait, ça. Toutes les messes qui auraient dû être célébrées, qui n'ont pas été célébrées, il y en a. Et tous les fruits des communions eucharistiques qui auraient dû faire du bien et qui n'ont pas fait du bien. Qui ont crevé, si je puis dire, le bien. Il faut reprendre toutes ces communions qui auraient dû produire leurs fruits universels, leurs fruits de conversion, leurs fruits de purification, leurs fruits de libération, leurs fruits de transformation dans toutes les âmes disponibles, dans tous les cœurs de votre volonté, dans toutes les âmes qui, elles, sont toutes sans exception très largement ouvertes à la présence de la grâce. Alors, mais bien sûr, bien sûr. Tu n'as pas fini ton travail. Il y a ça aussi à faire. Ah, c'est vrai. Il faut que je rentre dans le royaume de la divine volonté. Je dis oui, rentrer dans le royaume de la divine volonté, de manière à voir qu'effectivement, il y a tout ce travail à faire pour que la Jérusalem spirituelle de Jésus existe sur la terre et dans les cieux. Si bien que le passage du cinquième saut de l'Apocalypse est nécessaire. C'est une nécessité. C'est pas une revendication injuste du maître de maison. C'est nécessaire. La sagesse de la croix est nécessaire. La grâce, c'est une grâce de croire.